Vie. Grand reportage.
Israël, champion du monde de l'instabilité politique. Ce 23 mars, les Israéliens votent pour la quatrième fois en moins de deux ans. Le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, arrive en tête à chacun de ces scrutins législatifs. Mais celui que les Israéliens surnomment Bibi ne parvient plus à trouver une majorité pour gouverner. Il enchaîne les alliances fragiles, la société est divisée et finalement tout tourne autour d'un enjeu unique. Pour ou contre Bibi, c'est un grand reportage de Sami Boukhelifa.
Jérusalem Ouest, quartier de Rehavia, nous sommes chez Benjamin Netanyahou, au pied de la résidence du Premier ministre. Depuis 38 semaines maintenant, chaque samedi soir, des manifestants se rassemblent ici, sous les fenêtres de Bibi. Le Premier ministre est inculpé pour des faits criminels, corruption, malversation, abus de confiance. C'est une première dans l'histoire de l'État hébreu pour un chef du gouvernement en exercice. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces protestataires pour comprendre les raisons de leur colère, ce qui motive leur mobilisation depuis toutes ces semaines.
Alors, je m'appelle Yaniv Segal, j'ai 30 ans, j'habite à Tel Aviv, je suis israélien. Voilà, je suis comédien, je suis artiste de la scène.
Donc, Yaniv, qu'est-ce qui te motive en tant que jeune israélien, toi, à venir de Tel Aviv jusqu'à ici, à Jérusalem, pour manifester?
Moi, je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Front Rose, Pink Front.
Et d'où ta tenue?
D'où ma tenue, voilà, tout en rose.
Aujourd'hui, Yaniv est habillé tout en rose, mais vraiment de la tête aux pieds.
Ouais, ouais. Et parce qu'on est, c'est un groupe d'artistes, plutôt beaucoup de femmes. On est 7 femmes et 10 hommes dans le groupe, dans le corps. Et on est artistes, nous tous. Et on a pris notre métier pour parler, pour faire entendre nos avis et sur ce qui arrive, ce qui se passe maintenant en Israël, dans la politique et d'une manière générale.
Et qu'est-ce qui vous déplaît, vous, en tant que jeune Israélien? Pourquoi vous manifestez contre Bibi chaque samedi?
Alors, c'est déjà une situation très compliquée de l'année passée, avec le coronavirus et la situation économique et la situation politique, surtout les trois élections qu'il y avait déjà, et maintenant on a une quatrième, et l'instabilité, surtout c'est un peu la mort de valeurs dans lesquelles on croit.
Qu'est-ce qui provoque, selon toi, cette instabilité politique en Israël?
Alors, c'est la situation surtout avec Netanyahou, qui est notre premier ministre depuis un peu trop longtemps, je crois. Ça fait 11 ans, presque 12. Et la manière dont il a organisé le système politique, et pas que la politique, c'est-à-dire la situation en Israël, et la situation judiciaire, il est inculpé, et comment il arrange tout pour rester au pouvoir et pour éviter son procès. Voilà, il travaille pour lui-même surtout. On ne peut pas savoir avec lui, par exemple, avec la situation avec les vaccins. Il fait un grand effort pour montrer comment c'était lui le sauveur d'Israël, alors que c'était beaucoup de monde.
C'est vrai que vu de l'étranger, lorsqu'on voit la situation en Israël, Israël apparaît comme un pays exemplaire. Et Benjamin Netanyahou, il apparaît aussi comme celui qui a réussi à approvisionner le pays en nombre de vaccins nécessaires pour protéger la population. Est-ce qu'il y a du vrai dans ça ou pas du tout?
Bah, c'est son rôle. Je veux dire, il est payé pour ça. Mais lui, il prend ce rôle de Premier ministre et il se présente comme le sauveur d'Israël, comme le Massie, comme le roi, bah, les gens qui supportent Bibi. Il dit Bibi, roi d'Israël. Bah, on n'a pas besoin, on n'a pas envie d'un roi. C'est-à-dire, on est une démocratie. Et lui, il est très autocrate, presque.
Dans une démocratie, si on n'a pas envie d'un dirigeant, on peut le chasser du pouvoir, ouais, par les urnes. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ici?
Bah, on peut voir ça dans le monde entier. Je crois que c'est des phénomènes là qu'on voit dans le monde entier, surtout aux États-Unis, avec Trump, qui est... Voilà, en hébreu, on a une phrase qui dit « Montre-moi à tes amis et je te dirai qui tu es ». Bah, c'est pareil avec Bibi. On voit qu'il est très proche de Trump, de Poutine, et on voit quelle méthode, quel est leur héritage même. Et c'est pareil ici avec les fake news et avec les mensonges, et de lui et de tout son entourage. Et ça crée une atmosphère qu'on voit aussi dans les rues. Et tout est devenu très, très violent ici, même presque contre nous. On a été battus, on a été et par les forces de police et par des gens. Le discours même, il est devenu très extrême, très trichotome, comment on dit, de deux, voilà, noir et blanc. Il n'y a pas au milieu, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on est rose en plus, parce qu'on demande un futur rose, et c'est parce qu'on a beaucoup de femmes et gays, voilà. Et pour parler justement de ça, des droits des plus faibles, où les Arabes, Bibi, il va chercher ses voix, les votes dans les villages arabes, mais il ne s'est jamais concerné de situation des Arabes. Donc,
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Israël est dans l'impasse politique ?
Peut-être qu'il faut changer le système, mais ça voit que sa quatrième élection en 2 ans. Peut-être qu'on aura une 5e, on ne sait pas. Chaque fois, on voit maintenant les sondages et ben, je crois qu'on va être aussi bloqué, bouché à la fin de ce système.
Et comment se sortir de ce problème ? Les élections se suivent et se ressemblent avec, pour seul mot d'ordre, quelque part, cette crispation autour de pour Bibi ou ouais. Contre Bibi.
Voilà. On fait un grand effort maintenant d'augmenter les votes, en fait, d'encourager les gens à aller voter, parce qu'il y a par exemple au Tel Aviv que 57% la dernière fois de vote, et voilà, il faut jouer le jeu, même si le jeu est un peu cassé, le système, mais je crois, voilà, on fait un grand effort maintenant d'aller voter. On a ces stickers et ces slogans hashtag just vote,
et le changement par les urnes finalement,
voilà, bah c'est ça le jeu. À la fin, on a la même situation qu'aux États-Unis, que déjà on parle de fraude, de voilà, de une situation un peu, voilà, assez triste. C'était pas comme ça avant, je crois. Si on gagne pas tous, on perd tous. Donc, c'est ça notre avis à nous, de toute façon.
Merci beaucoup, Yannick.
Bah, de rien, merci à toi.
Nous restons toujours à Jérusalem-Ouest, mais cette fois-ci, nous avons rendez-vous dans un endroit un peu plus calme, chez Lili Lahouri, ou plutôt Maître Lili Lahouri. Elle est avocate franco-israélienne, membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Elle est assez médiatisée dans le pays, ici. Et pour vous la présenter en quelques mots, disons qu'elle a quitté Paris à 18 ans par conviction religieuse. Elle a fait ce que les Juifs appellent l'Aliya, son ascension vers Israël, en d'autres termes, si vous voulez, son immigration. Et pour elle, toute la terre ici appartient au peuple juif. Lorsqu'elle évoque par exemple les territoires palestiniens de Cisjordanie occupés, elle parle de Judée-Samarie, c'est l'appellation biblique de cette région. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Benjamin Netanyahou a fait son temps et que peut-être la politique, ça serait peut-être de l'histoire ancienne pour lui ou pas ?
J'ai mes propres critiques sur Netanyahou, comme par exemple le fait qu'il n'a pas encore appliqué la souveraineté sur l'intégralité de la Judée-Samarie. Je trouve qu'il a raté certaines occasions. Pour autant, je trouve que Netanyahou a été un premier ministre exceptionnel. Il nous a forgé une économie en béton. Il nous a propulsés sur la scène internationale. Il a quand même réussi ce qui était impensable il y a quelques années. Nous avons signé 4 accords avec des pays arabes. Ce que la gauche a toujours rêvé n'a jamais réalisé. Et nous, nous le faisons sans faire de concessions territoriales. Et ces pays arabes ont compris qu'Israël n'était pas l'ennemi. Donc, sur tous les plans, Netanyahou est, je ne vais pas parler au passé, parce que j'espère bien qu'il va être réélu, est un premier ministre phénoménal. Au niveau des vaccins, on a vu également comment, grâce à ses rapports privés avec des chefs d'État, avec des compagnies, il a réussi à mobiliser Pfizer, Moderna, en misant en plus, dès le départ, sur les bonnes sociétés et à nous faire amener ici déjà 12 millions de vaccins, 36 millions sont déjà prévus. L'organisation phénoménale qu'il y a eu au niveau de l'État, la mobilisation de l'armée, des médecins, des infirmiers pour pour organiser à grande échelle sur tout le pays ces centres de vaccination. Donc nous allons être le premier pays qui va sortir de la crise. C'est un phénomène, Netanyahou.
Mais est-ce que être un premier ministre exceptionnel, phénoménal, signifie être au-dessus de la loi aussi quelque part ?
Alors certainement pas, et je vais vous dire mieux. Moi, je ne suis pas du tout conspirationniste, hein. Je suis avocate, donc très respectueuse des lois. Et je n'ai jamais réfléchi aux conspirations, jusqu'au procès de Netanyahou. Ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a une pseudo-élite médiatico-juridique qui pense qu'elle est au-dessus des lois, qui n'arrive pas à prendre le pouvoir par les urnes, parce que le peuple est à droite, et donc qui essaye de faire tomber le gouvernement de droite, et Netanyahou en premier, pour essayer de reprendre le pouvoir. Ces procès qui lui ont été infligés, ces trois affaires, lorsque vous les regardez à la loupe, vous les étudiez un petit peu, vous vous rendez compte à quel point ce sont des dossiers montés de toutes pièces.
Donc vous nous dites que Israël, présenté souvent comme la seule démocratie du Moyen-Orient, a aujourd'hui une justice qui ne serait pas indépendante ?
Le système juridique aujourd'hui est gangréné par une extrême gauche qui porte fortement atteinte à notre démocratie. J'espère pour ces prochaines élections Netanyahou, et lorsqu'il décidera de tirer sa révérence, il y aura d'autres leaders de droite. Mais ça, c'est à condition également qu'il s'en sorte de ces procès juridiques.
Très bien, merci à vous.
Avec plaisir.
Après cette petite incursion dans les cercles militants avec les pro-Bibi et les anti-Bibi qui s'impliquent avec acharnement dans cette bataille électorale, allons désormais à la rencontre de ces Israéliens moins engagés dans la vie politique et pourtant tout autant pris au piège de cette injonction pour ou contre Bibi.
Je m'appelle Elia, j'ai 34 ans, j'ai deux jeunes enfants, je suis né à Jérusalem. J'ai grandi dans une maison de gauche, ça veut dire que mon père a toujours été pour la gauche, pour les partis comme Meretz et pour Rabin à l'époque. Et tout ça, dans ces dernières années, c'est un peu, ça n'existe plus vraiment, ça veut dire qu'ils n'ont plus de force du tout.
Qu'est-ce qui s'est passé avec la gauche israélienne ? Pourquoi elle a complètement disparu ?
Je pense que c'était une décadence depuis le meurtre de Yitzhak Rabin. Et ils ont juste perdu de force à cause des luttes de pouvoir. Et ça veut dire que si je veux voter pour une partie de gauche, alors c'est pratiquement sûr qu'ils ne vont pas rentrer même dans la Knesset.
Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est quoi le problème ? Pourquoi Israël n'arrive plus à trouver une solution ?
En fin de compte, Bibi est resté en pouvoir. Même s'il y a des élections à chaque fois, c'est lui chaque fois qui gagne. Et en fait, son idéologie est l'idéologie qui mène ce pays en ce moment. Et je pense que ça va rester comme ça aussi dans les prochaines élections.
Tu penses qu'en Israël, on est arrivé au bout de l'exercice politique, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou qui arrive en tête des élections, mais qui n'arrivera pas à former de gouvernement. Et au final, est-ce que tu penses que c'est une manière pour lui de gagner du temps et de rester le plus longtemps possible au pouvoir ?
Oui, c'est la preuve que tous les adversaires sont plus là. Même dans son parti, le Likoud, les gens que moi je considérais de qualité sont plus dans la politique. Ça veut dire qu'il est resté avec des gens qui peuvent manipuler et qui peuvent contrôler. Et si quelqu'un lève un peu la tête, il fait en sorte de, avec sa magie vraiment brillante, parce qu'il est un politicien extraordinaire, il sait comment mettre les adversaires de côté et...
Oui, c'est un animal politique, en fait. Chaque fois qu'on croit sa fin proche, il oui. a plus d'un tour dans son sac, oui. il réussit par des tours de passe-passe à se maintenir au pouvoir.
Exactement. Oui, c'est vraiment assez incroyable, parce que c'est vrai que ça pourrait dire quelque chose sur tout le système politique en Israël, que peut-être qu'il a réussi à exploiter les faiblesses de cette démocratie et maintenir le pouvoir. Le problème est qu'on n'a pas tellement d'opposition en Israël en ce moment.
Il n'y a pas d'alternative.
C'est un peu problématique. Oui. Alors dans ce sens-là, je suis un peu pessimiste parce que je ne trouve pas vraiment une solution. Peut-être le seul espoir, c'est les partis arabes. Je pense voter pour eux. Et ils peuvent peut-être donner une alternative, ou peut-être même s'ils vont avoir plus de sièges. Je pense que c'est le vrai problème de Bibi, ces partis. Parce que maintenant, en ce moment, il essaye de parler aux Arabes israéliens pour avoir leur voix aussi.
Il est en pleine tentative de séduction de l'électorat arabe israélien.
Exactement. Je suis pas sûr qu'il va réussir, mais comme il a beaucoup de talent, peut-être il va aussi réussir à les convaincre.
On verra.
Oui, on verra. On verra.
Merci Elia.
Merci. Merci beaucoup. Merci.
You know, I'm the father of my oldest boy is called Yair.
Cette voix, c'est celle de Benjamin Netanyahu. Il explique sur la chaîne de télévision américaine Fox News cette tradition arabe orientale. Tous les hommes ont des surnoms qui commencent par Abu, père d'eux, et suivi par le prénom de leur fils aîné.
Abu Yair, Abu Yair, we love you.
C'est comme ça qu'est né durant cette campagne électorale Abu Yair, qui déclare sa flamme aux 2 millions d'Arabes israéliens. Ils représentent plus de 20% de la population, ils sont citoyens de l'État hébreu et ont donc le droit de vote. Je me trouve à Baqa al-Gharbiya, ville arabe israélienne, où m'attend Afif Abou Mokh. Ce citoyen arabe israélien est très actif sur les réseaux sociaux. Son objectif, faire entendre la voix de sa communauté.
Netanyahou a une double personnalité. D'un côté, il y a le Benjamin Netanyahou qu'on connaît tous, et de l'autre, il y a ce personnage d'Abu Yair qu'il vient d'inventer. Cet Abu Yair est en campagne électorale contre Benjamin Netanyahou. Abu Yair promet aux Arabes tout ce que Netanyahou leur refuse. Bien sûr, nous savons tous que Benjamin Netanyahou est le plus grand des menteurs. Que nous soyons arabes ou juifs, nous devons apprendre des erreurs du passé. Netanyahou, contrairement aux autres politiciens israéliens, n'a pas de ligne rouge. Il va chercher les voix où elles se trouvent. S'il y avait des votes à récupérer en Syrie, il serait prêt à conclure un accord avec Bachar al-Assad.
Et comment réagissent les Arabes israéliens ?
Selon les sondages, il obtient 2 sièges supplémentaires au Parlement grâce aux Arabes. Personnellement, je n'y crois pas. Mais on verra.
Samedi, Shabbat, jour de repos et de prière chez les Juifs, je suis en face d'une petite synagogue de quartier à Jérusalem-Ouest. J'ai rendez-vous avec un jeune juif israélien-américain. Alors bien sûr, l'interview ne va pas avoir lieu aujourd'hui parce qu'il ne peut pas parler au micro durant Shabbat pour des raisons religieuses. Je vais donc devoir attendre 24 heures pour connaître son opinion sur la situation politique. Je sais déjà qu'il ne votera pas pour Bibi, même s'il reconnaît en lui un grand leader. Il est toutefois trop centriste à son goût et il aurait fait trop de concessions aux Arabes.
My name is Joel Sturman. Je m'appelle Joel Sturman. Je suis né et j'ai grandi à Jérusalem. Je me considère comme un religieux de droite. Aussi bien la gauche que la droite jouent là-dessus, pour ou contre Bibi. Et Bibi sait que c'est bon pour lui et il en joue lui aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce pays sont persuadés que Bibi agit de la bonne manière et il y a tout autant de personnes qui pensent qu'il est responsable de tous nos malheurs. Donc ce problème de pour ou contre Bibi a réduit en pièces la droite et la gauche israélienne qui ont toujours donné une stabilité à notre système de gouvernance. Alors qu'autrefois, nous avions une droite solide et unie, elle est désormais éclatée entre ceux qui soutiennent et ceux qui détestent Bibi. Et à cause de ça, nous avons perdu notre stabilité. J'espère que cette élection va déboucher sur un résultat clair, quel qu'il soit, qu'on puisse enfin avoir un gouvernement qui fonctionne.
Pour ou contre Bibi, un grand reportage de Sami Boukhelifa. Réalisation Nicolas Benito.